Europe 1.
Europe 1. 15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
La première image, malheureusement familière, donne le ton. Elle est celle de la swastika noire, la fameuse croix gammée dont le Troisième Reich avait fait son emblème. Elle ressort sur un rond blanc inscrit dans un cercle rouge. L'ensemble compose le tristement célèbre drapeau nazi, mais on distingue aussi au premier plan une silhouette en surimpression, un visage plutôt celui d'un homme qu'on reconnaîtrait entre mille avec sa mèche noire soigneusement lissée sur un côté du front et sa moustache en brosse à dents. C'est Adolf Hitler, bien sûr, mais un Adolf Hitler un peu différent. Et pour cause, ce n'est pas le visage du Führer à bien y regarder, mais celui d'un chat qui lui ressemble à s'y méprendre, avec ses longues moustaches sur le côté et son regard froid. Cette image d'Adolf Hitler en matou cruel, c'est la couverture de Maus d'Art Spiegelman. Maus, cela veut dire souris en allemand, et le titre du livre résume à lui seul son principe artistique. Dans ce long récit, Art Spiegelman raconte l'histoire de ses parents, un couple de juifs polonais que la Seconde Guerre mondiale a jeté dans la mécanique génocidaire mise en place par le Troisième Reich. Mais ce qui fait l'originalité de l'œuvre, ce n'est pas tant le témoignage de Vladek, le père de Art Spiegelman, que le choix de représenter tous les protagonistes avec des visages d'animaux. Dans Maus, les juifs ont des corps humains mais des têtes de souris. Les nazis, eux, ont des visages de chats. Et chacun sait que les chats poursuivent les souris. Édité pour la première fois sous forme de recueil en 1986, après avoir été publié en plusieurs épisodes au tout début des années 80 dans Row, un magazine de bande dessinée américain, Maus est l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de la bande dessinée, l'une des œuvres les plus célèbres jamais publiées sur le génocide. Le père de Art Spiegelman et le principal narrateur de Maus est mort en 1982, mais son témoignage mis en image par son fils prend là une nouvelle importance aujourd'hui. À l'heure où les derniers survivants des camps d'extermination se font rares, Maus repose une question qui se posait déjà au moment de sa parution. Comment raconter l'histoire de la Shoah à des générations qui n'en ont été ni les victimes ni les témoins ? Comment décrire ce qui est à peine pensable ? Comment imprimer dans la mémoire collective ce crime inouï qui se solda par la mort de 6 millions de Juifs ? La réponse est peut-être là, dans cette œuvre inclassable et profonde, honnête et dure, dont je vous raconte l'histoire cet après-midi. Lorsque Art Spiegelman voit le jour en 1948 à Stockholm, la Suède n'est qu'une étape sur la route de l'exil pour son père Vladek et sa mère Anja, un couple de Polonais qui poursuit ensuite sa route en direction des États-Unis, à New York, où le couple ne tarde pas à s'installer dans le quartier du Bronx, en 1951. Dans les années 50, Art Spiegelman est un gamin du Bronx comme les autres. À un détail près, il n'a qu'un seul bon œil. L'autre est touché par une amblyopie, une maladie qui l'empêche de distinguer correctement les reliefs. Gêné pour pratiquer les sports qui passionnent les camarades de son âge, comme le baseball, Artie se réfugie dans la lecture des romans qu'il emprunte au petit bonheur la chance à la bibliothèque du quartier. Mais le jeune homme découvre aussi très tôt les comics qu'on trouve à la pelle dans les épiceries ou chez les vendeurs de journaux. Un magazine surtout lui tape dans l'œil, Mad, la bible de la BD underground dans les années 50. Mad, c'est le territoire de tout ce que la contre-culture américaine peut avoir d'irrévérencieux, de subversif et de moqueur, de parodique aussi. À chaque numéro, ses dessinateurs s'ingénient à passer la société américaine à la moulinette. Et si c'est dans Mad que Art Spiegelman croise l'une de ses premières souris, Mickey, c'est un Mickey détourné et parodié en loser paumé, méchant, clochard et mal rasé. Au travers des comics, l'adolescent découvre à la fois l'envers du rêve américain et l'ironie, le sarcasme et donc la parodie. Il s'initie aussi à tout un langage graphique nouveau et séduisant. L'effet est d'autant plus profond que le garçon perçoit mal les perspectives. Dans son monde en deux dimensions, chaque case de BD semble particulièrement nette. Son handicap aurait pu contrarier ses premières tentatives de griffonnage, mais Art s'entraîne sans relâche à respecter les lois de la perspective. Lorsque ses parents découvrent que ce goût pour le dessin n'est pas qu'une passade, il s'affole un peu. Dessinateur, c'est pas le métier dont rêve le couple, qui verrait plutôt son fils médecin, ou et pourquoi pas dentiste. Pour convaincre artiste, son père trouve même un argument massu. Après tout, à Auschwitz, les dentistes étaient considérés comme des docteurs. L'argument est étrange, il tombe surtout à plat. À 12 ou 13 ans, Art Spiegelman ne sait pas encore ce que fut Auschwitz. Il est d'ailleurs à peine conscient que ses parents sont juifs et qu'ils ont émigré aux États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas dans sa petite rue du Bronx que Spiegelman peut véritablement prendre conscience de cette judéité, même si quelques autres gamins d'émigrés, des Irlandais catholiques, le poursuivent en l'accusant d'avoir tué le Christ. Quant à Auschwitz, personne n'en parle. L'Holocauste est pourtant récent. Le Bronx compte bien d'autres rescapés des camps que les parents d'Arty, mais rares sont ceux qui parlent de ce qui s'est passé en Europe. Personne ne parle encore de ce qu'on nommera l'Holocauste ou la Shoah. Quand on évoque cette période, on parle seulement de la guerre, des camps, par simple bribe. Ce qui domine, c'est le silence et même une étrange forme de honte. Dans le quartier, la mère de Art Spiegelman n'est pas la seule à cacher sous un bracelet le matricule tatoué sur son bras en chiffres violets. Quand elle évoque les camps devant son fils, c'est presque par hasard, au détour d'une conversation. Quant à son père, c'est bien simple, il n'en parle jamais. Plus Art Spiegelman grandit, plus les liens se distendent avec sa famille, avec son père surtout, qui ne comprend pas les tendances hippies d'Arty et qui part dans des colères noires que son fils ne comprend pas toujours. Et pour cause. Quand Vladek lui reproche d'acheter une Volkswagen, personne ne lui a expliqué que la marque a été fondée par le régime nazi à une époque où Hitler se faisait fort de permettre à chaque Allemand d'avoir sa propre voiture. Mais le fantôme d'Auschwitz est toujours là. En 1968, Art Spiegelman a 20 ans et a déjà commencé à publier ses premiers dessins dans la presse underground lorsque sa mère Anja se suicide. Cette mort est un traumatisme absolu pour le jeune homme qui répond à sa manière par le dessin en publiant 3 ans plus tard l'une de ses premières grandes œuvres, Prisonnier de la planète Enfer, qui revient sur le drame et sur le sentiment de solitude qui s'abat sur son jeune auteur. La même année, Art Spiegelman renoue avec son père en travaillant sur un court récit de 4 pages. Baptisé Maus, ses brouillons tournent autour d'un souvenir de son père, l'un des rares qu'il avait accepté d'évoquer avec son fils. Le récit est très bref, mais tout est déjà là, à commencer par ce parti pris de représenter chaque personnage juif sous les traits d'une souris et chaque soldat nazi sous celui d'un chat, l'ennemi naturel des souris. Lorsque Art montre ses premières ébauches à son père, quelque chose se produit chez ce rescapé. Pour la première fois, Vladek s'assoit et raconte l'enfer d'Auschwitz à son fils. Même s'il ne sait pas encore ce qu'il compte en faire, Art a le réflexe d'enregistrer ses entretiens qui se succèdent pendant 4 jours. 4 jours où le jeune homme découvre à la fois l'histoire tragique de sa propre famille et l'invraisemblable industrie de mort que fut la Shoah. Il commence alors à en tirer les 6 premiers chapitres d'un des plus célèbres récits sur le génocide. Et la maturation est lente, alors que cette série d'entretiens fondateurs se déroule en 1972, les premières planches de Maus ne sont publiées qu'à partir de 1980 dans le magazine Underground Row, fondé par Spiegelman lui-même en 1978. Cet écart, c'est le temps nécessaire à un processus de création, d'analyse et de documentation, d'autant plus douloureux qu'à travers la trajectoire de ses parents, ce sont 2 tragédies qui se croisent et se recoupent, celle de sa famille et celle de la grande histoire. En s'attaquant à Maus, ce monument de 292 planches et de 1500 cases en noir et blanc qui va occuper 13 ans de sa vie, Spiegelman renoue le fil d'une histoire hélas banale dans l'Europe des années 40, celle d'une famille de juifs polonais plongés dans l'abomination qui s'abat sur le continent avec la Seconde Guerre mondiale. Le récit d'Anja et de Vladek, c'est l'histoire d'un des plus grands crimes jamais commis contre l'humanité, mais à hauteur d'hommes et de femmes, ou plutôt de souris, puisque Spiegelman reprend le principe zoomorphique déjà utilisé dans ses 4 premières pages dessinées en 1972. Sous le feutre du dessinateur, Les Juifs sont dessinés avec un visage de souris, les nazis comme des chats et leurs complices polonais comme des cochons. Plus tard, chaque Français prendra les traits d'une grenouille, tandis que les Anglais seront dessinés comme des poissons, les Américains comme des chiens et les Suédois comme des élans. Réunis en deux volumes, publiés en 1986 et 1991, l'histoire de Maus commence dans les années 30 avec la rencontre du couple que forme Andrzej Wladek-Spiegelman. Mais le drame en lui-même débute en 1943. Cette année-là, les nazis décident de déplacer les juifs du ghetto de Sosnowiec vers le petit village de Zdodrula. Wladek et Andrzej, qui sentent que quelque chose de terrible se prépare, confient leur premier enfant, Richieu, à une tante qui paraît plus en sécurité. De cachette en cachette, le couple échappe un temps à la Gestapo avant de chercher à franchir la frontière avec la Hongrie. Mais le piège se referme. Andrzej et Wladek sont arrêtés dans le train par la Gestapo, puis séparés au triage à leur arrivée à Auschwitz. Le second tome de Maus, publié en 1991, raconte la fin de l'histoire des Spiegelman, déplacés d'Auschwitz à Dachau par les nazis pour échapper à l'avancée des Alliés. Chose rare, les deux mariés survivent à l'extermination, mais ce n'est qu'après la libération du camp qu'ils découvrent que ce miracle se paye par une souffrance insoutenable. Richieu, leur premier fils, est mort, tué par sa tante qui a préféré l'empoisonner avant de se suicider plutôt que de connaître la déportation. Pour Art Spiegelman, Richieu reste à jamais ce frère inconnu à qui le premier tome de Maus est d'ailleurs dédié. Dans le récit qu'il tire du témoignage de son père, Art multiplie les va-et-vient entre le passé et son présent. Sont très simples aussi entre la chronologie des horreurs que Wladek lui décrit assis dans son fauteuil et le dialogue entre son père et lui en 1972 et ensuite. Et ce père qui n'a longtemps rien dit ne cache plus rien, il raconte tout. Les privations, la violence, les tortures, les brimades et surtout cette haine nazie pour des juifs qu'ils veulent exterminer. Il décrit le travail forcé jusqu'à la mort, les coups, les humiliations, la faim, la maladie, la crasse, la promiscuité, le tri des déportés, les tatouages, les chambres à gaz et les exécutions, les fosses communes à ciel ouvert, la fumée épaisse et obscure qui s'échappe des crématoires. Il raconte ce sentiment de déshumanisation qui frappe les déportés et qui les tue lentement avant qu'ils ne meurent. À chaque page tournée, on repense à cette réponse odieuse d'un gardien d'Auschwitz à un autre rescapé, Primo Levi, qui lui demandait tout simplement pourquoi. « Er ist kein warum », ici, il n'y a pas de pourquoi. Mais ce que découvre aussi Art Spiegelman et son lecteur avec lui, c'est que la violence ne fait pas ressortir que le meilleur de la nature humaine, mais aussi le pire. Wladek raconte les vols, les dénonciations, les petits arrangements avec les capots pour survivre, les bagarres pour un quignon de pain moisi, pour un sabot, une couverture. Il raconte aussi ce soulagement affreux de voir que c'est un autre que soi qui va mourir, cette habitude de la mort qui vire à l'indifférence. C'est toute l'horreur de Maus. Aucun survivant n'est sorti intact d'une expérience qui les a changés à jamais. Wladek Spiegelman n'est pas un survivant idéal, noble et pur. Il a sa propre part d'ombre et Art ne recule pas quand il s'agit de montrer le racisme de son père, persuadé que chaque Américain noir est un voleur ou un criminel. Il ne se défile pas non plus quand il s'agit de dire ce qui lui paraît impensable. Au fil du récit, Art découvre qu'après la mort de sa femme, son père a brûlé les carnets d'Anja, des carnets dans lesquels elle racontait ses propres souvenirs d'Auschwitz, comme s'il avait fallu effacer la mémoire d'un crime dont Wladek et Anja avaient pourtant été victimes. Avec Maus, leur fils fait exactement le contraire. Avec une puissance et une intelligence rare, il témoigne de cette mémoire oubliée dans ce qui reste aujourd'hui comme l'une des plus célèbres œuvres de l'histoire de la bande dessinée et l'une des plus fortes aussi. À sa sortie en 1986, la publication du premier tome de Maus a immédiatement marqué les esprits. Le livre, qui tient à la fois du documentaire, de la biographie, du reportage et du témoignage, connaît un succès immédiat en librairie. Quant aux critiques, elles sont presque unanimement élogieuses, ce qui est encore rare pour une bande dessinée, un genre encore très décrié dans les années 80. La gravité du sujet s'y prête évidemment, comme le choix du dessinateur de donner à ses personnages les traits de différents animaux, souris, chats ou chiens. Spiegelman n'est évidemment pas le premier auteur à utiliser les bêtes pour évoquer la vie des hommes. De La Fontaine et de ses fables jusqu'à La ferme des animaux de George Orwell, en passant par les dessins animés qui ont formé l'imaginaire de Spiegelman dans son enfance, les artistes se sont souvent appuyés sur le monde animal pour décrire la condition humaine et ses drames. Mais avec Maus, Spiegelman ne fait pas dans la métaphore politique comme Orwell ou dans la description de nos travers et de nos défauts comme La Fontaine. Il s'attaque à l'un des pires crimes de l'histoire de l'humanité, une catastrophe presque indicible. Derrière cette simplicité du trait qui rend encore plus terrifiante la réalité qu'il décrit, tous pointent ce choix génial d'une métaphore qui permet de montrer ce que le cinéma n'a presque jamais su faire sans tomber dans le voyeurisme. Insupportable, la réalité sordide et brutale des camps peut enfin être représentée par la force de cette projection. Comme on ne montre pas des visages humains, mais des chats et des souris, on peut accepter de regarder en face la réalité insoutenable d'Auschwitz, ou plutôt dans l'œuvre de Mauschwitz. Là encore d'ailleurs, Spiegelman n'est pas le premier. En 1942 déjà, le militant juif allemand Horst Rosenthal avait repris le personnage de Mickey pour évoquer le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale depuis le camp de Gurs en France. Dessiné sous le manteau, son travail n'évoque pourtant pas la solution finale de manière aussi directe que Maus. Derrière les souris, les chats et les cochons de Spiegelman, l'horreur concentrationnaire et génocidaire des camps est exposée sans limite, avec une liberté qu'une représentation plus réaliste n'aurait sans doute pas permise. Maus est certes une œuvre destinée au grand public, mais elle est extrêmement documentée et souvent exigeante. Pour citer Spiegelman, j'ai voulu faire une BD qu'on lit avec un marque-page, pas assis dans les toilettes. Le résultat est là. Des milliers de lecteurs qui auraient peut-être reculé devant une œuvre d'un autre style se sont plongés dans l'implacable récit de ce que fut l'immense logistique nazie, construite pour donner la mort à l'échelle industrielle. Beaucoup ont depuis commenté les choix de Spiegelman. Les Polonais lui ont toujours reproché d'avoir choisi de les représenter sous forme de porcs, en soulignant qu'eux aussi ont été des victimes du nazisme. Mais Spiegelman a répondu qu'il avait représenté de cette manière non pas tous les Polonais, mais uniquement ceux qui se sont associés aux nazis. Le choix des souris pour représenter les Juifs, quant à lui, ne fait que reprendre la propagande antisémite nazie, et pas seulement nazie d'ailleurs. À la fin des années 30, l'antisémitisme brode partout et depuis de longues années sur le thème des rongeurs et des parasites, en associant justement les Juifs à des rongeurs. Choisir des chats pour incarner les nazis répond évidemment à une certaine logique, comme celui des chiens pour incarner les soldats américains. Les chats poursuivent les souris et les chiens poursuivent les chats. L'animalité s'arrête au visage d'ailleurs. Leur apparence mise à part, tous les personnages de Spiegelman se comportent comme des êtres humains. Et l'humour perce d'ailleurs parfois, même s'il est noir. Lorsque Anja et Vladek se cachent dans une cave, les deux souris tremblent à l'idée de croiser des rats. Au-delà du succès de l'œuvre en elle-même, Maus a eu le mérite de donner à la bande dessinée et aux comics une crédibilité critique nouvelle, surtout sur le marché américain. Dominé par les productions de Marvel ou de DC Comics, la bande dessinée est toujours considérée par beaucoup comme un art mineur. La sortie de Maus, qui est à peu près contemporaine de celle de Watchmen d'Alan Moore et Dark Knight Returns de Frank Miller, Maus donne en quelque sorte un tout nouveau crédit au 9e art. Certains s'en sortent en trichant un peu pour décrire des œuvres comme Maus. On commence alors à parler de graphic novel, de roman graphique et pas de comics ou de bande dessinée. Art Spiegelman est le premier à s'en agacer d'ailleurs. Dans une interview au journal Le Monde, il insistait sur le fait qu'il avait toujours fait de la bande dessinée et pas du roman graphique, un terme qu'il trouve à la fois marketing et faux. On a voulu mélanger la bande dessinée à quelque chose de respectable comme le roman, mais le roman n'a pas toujours été respectable. Je ne suis pas l'auteur d'un roman graphique qui traite de l'Holocauste, je suis un auteur de bande dessinée. Et celle-là, de bande dessinée, a changé, sans qu'il le veuille, sa destinée. Lorsqu'il s'est lancé dans la publication de Maus à la fin des années 80, Art Spiegelman était déjà une figure de la bande dessinée américaine. Aujourd'hui, à 76 ans, le dessinateur croule sous les honneurs. Maus reste la seule bande dessinée jamais récompensée par un prix Pulitzer et son travail a également été salué en France où il a reçu le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2011. Son œuvre, qui s'étend sur bientôt 60 ans, n'a pas cessé de faire bouger les lignes, y compris après Mauss. Touche à tout, Art Spiegelman a profité de toutes les occasions pour explorer des formes, des styles et des genres différents. Du dessin politique au documentaire, en passant même, et oui, par la pornographie. Il a dessiné pendant 10 ans dans le New Yorker de 1993 à 2002 et son recueil « À l'ombre des tours mortes », entièrement consacré au traumatisme du 11 septembre 2001, est l'une des œuvres les plus marquantes sur cette période. Pourtant, il le sait, quoi qu'il fasse, Art Spiegelman est pour toujours l'auteur de Mauss, un livre qui occupe aujourd'hui une place écrasante dans son existence. Trop écrasante, peut-être. Depuis la publication du second volume, en 1991, le dessinateur a tout fait pour échapper à son propre récit, celui d'une mémoire qui n'est pas la sienne. Dans une interview accordée au Monde en 2021, Spiegelman le résumait d'une formule frappante. « Je ne veux pas être ce putain de mec poursuivi par une souris de 250 kilos. » Pour solde de tout compte, Spiegelman a publié en 2012 « Metamouse », une sorte de BD sur sa BD pour dévoiler la manière dont s'est construite son œuvre la plus célèbre. Mais rien n'y fait. D'autant que les fractures de l'Amérique rattrapent le dessinateur qui vit aujourd'hui à Manhattan. Son opposition féroce à Donald Trump ne lui a pas fait que des amis. Et en 2022, Mauss s'est retrouvé au centre d'une de ces polémiques dont l'Amérique a le secret lorsqu'un établissement scolaire du Tennessee a décidé de bannir la bande dessinée de sa bibliothèque et de ses classes. La direction de l'école reproche à l'œuvre d'employer, je cite, un langage vulgaire et inapproprié et de montrer une jeune femme nue dans l'une des cases. Consterné par cette censure, Art Spiegelman ne s'est pas étendu sur le sujet mais s'est borné à rappeler, avec l'humour noir qu'il caractérise, que l'Holocauste ne s'est jamais caractérisé par sa politesse. Mais c'est sans doute à un autre dessinateur, son ami Neil Gaiman, que revient le dernier mot sur cette censure qui oscille entre le ridicule et le sinistre. Il n'y a qu'un seul type de personne qui voterait pour interdire Mauss, quel que soit le nom qu'elle se donne aujourd'hui. Voilà qui est dit.
Europe 1. Historiquement vôtre.